It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant thune podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
J'étais parti dans cette idée de créer un empire.
Ah.
Voilà, je voulais avoir plein de restaurants et... Comme je disais un peu en préambule, j'avais l'envie de gagner du fric. Et un restaurant, tu peux gagner ta vie, mais tu ne gagnes pas de fric.
Ça faisait un moment que je voulais m'entretenir avec un restaurateur. Comprendre ce métier, somme toute généreux et certainement aussi assez pénible. Comprendre ce qui se joue quand on n'a que deux créneaux par jour pour faire son beurre et que les clients s'appellent « découvert ». Et surtout, comprendre la différence entre un resto qui marche et un resto qui se plante. Alors j'ai contacté Simon, que je connais mal depuis longtemps, puisque son ancien resto était en bas de mon ancien appartement, dans ce quartier plus que gentrifié, qu'est le 11e arrondissement. Et évidemment, cette interview ne ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé. On y parle de thunes et de restauration, heureusement, mais aussi de gilets jaunes, de conflits d'associés, de changements de vie, d'influence sur Instagram et de demi-mour. Il paraîtrait qu'on dit demi-mort. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on va parler de thunes et de cuisine avec Simon Auchère. Bonjour Simon.
Bonjour Laurence.
Tu as 35 ans, tu vis entre Paris et Nice, tu es donc cuisinier. Tu as eu entre autres deux restos à Paris dans le 11e arrondissement. Tu es parti il n'y a pas très longtemps t'installer à Nice avec ta femme et ta fille et donc tu n'as pas ouvert de nouveaux restos. Je me suis rendu compte juste avant cet enregistrement que tu avais plus de 100 000 followers sur ton compte Instagram. Bref, du coup aujourd'hui je compte vraiment sur toi pour nous raconter comment et de quoi tu vis. Mais avant ça, je voudrais que tu me dises d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, ce que faisaient tes parents.
Mon père est français, parisien. Ma mère est camerounaise. Ils se sont rencontrés à Paris, mais je suis né en Côte d'Ivoire. Puis, on est rentré en France pour habiter à Strasbourg. Et à mes 20 ans, je me suis installé à Paris. Et je suis resté à Paris 12 ans avant de m'installer à Nice en septembre.
T'as grandi avec quelle idée de l'argent ?
J'ai grandi avec l'idée que je voulais gagner beaucoup d'argent. En fait, pendant très longtemps, je me disais... Je veux avoir un niveau de vie au minimum égal à celui que mes parents m'ont offert, mais je veux surtout beaucoup plus. Parce que j'ai pas envie de me poser de questions. Pour moi, l'argent, c'est le synonyme de facilité. Quand on a de l'argent, on se pose moins de questions. Aujourd'hui, je veux juste gagner assez pour être tranquille, justement.
Est-ce que ton choix d'orientation professionnelle a été conditionné par cette envie de gagner plein de fric ?
Non. Non, non, pas du tout. Après mon bac général, je suis parti à Londres faire une école de commerce et de finance. Pour travailler dans la finance, pour gagner beaucoup d'argent, avec l'idée derrière la tête qu'un jour ou l'autre, j'ouvrirais mon resto.
Ah oui, d'accord.
Quand même, donc... c'était déjà... Il y avait quelque chose, il n'y avait pas de débat là-dessus, mais je voulais passer par un autre biais, et aussi pour faire plaisir à mes parents, parce que j'ai jamais voulu faire de la finance. Et puis au bout de 6 mois, je me suis dit, bah non, c'est pas pour moi. J'ai appelé mes parents pour leur dire que je voulais faire l'école hôtelière. La news est passée, je sais qu'ils n'étaient pas hyper chauds, mais ils m'ont fait confiance. C'est surtout ma mère qui m'a fait confiance et mon père s'est laissé faire.
Comme souvent.
Comme souvent. Je suis un peu d'une génération Cyril Lignac, tu vois. quand la première émission de cuisine un peu qu'on a eu en France, c'était Cyril Lignac, je sais pas, j'avais 14-15 ans. Et c'est la première fois que tu voyais un cuisinier, à part Joël Robuchon, Bon Appétit bien sûr, mais un truc un peu ringard. Là, c'était cool. Et en fait, je pense honnêtement que cette émission m'a aidé à me dire genre, ah ouais, au fait, c'est cool, je peux le faire, tu vois. Je peux être cuisinier sans que ce soit la honte auprès de mes parents. Le cuisinier n'est plus le graisseux comme on l'entendait à l'époque, le mec qui a raté ses études. Et voilà, quoi. Il y a tellement de reconvertis en cuisine aujourd'hui, c'est que c'est un métier qui attire, quoi. Les gens se lancent, et les gens de tout milieu. Mais avant, c'était pas un milieu, la cuisine, où t'avais les mecs les plus brillants, quoi.
Ouais, c'était pas un métier noble, ouais.
Ouais.
Mais depuis la grande vague des reconversions, en plus,
non,
ça
mais
a
c'est
peut-être...
Ça. Je pense que Top Chef, enfin, toutes ces émissions ont aidé vachement parce qu'aujourd'hui, les cuisiniers sont des rockstars.
Tu t'es assez vite engouffré dans un type de cuisine. Tu t'es dit, je veux faire ça, de la bistronomie ou du français ou pas du tout. Enfin, comment ça se passe?
J'ai appris à cuisiner français. J'ai mangé français, donc ma cuisine est française. Après, mes intentions un peu méditerranéennes, un peu légumières, c'est juste des questions de goût, en fait, et de moi et de mon évolution personnelle. Mais sinon, ouais, j'ai un très classique, quoi, à la base.
À 27 ans, en 2015, tu ouvres ton premier restaurant, ouais, dans le 11e, Tanat. C'est jeune pour se lancer.
Ouais, c'est jeune, c'est jeune. J'avais pas peur. Je suis performant quand j'ai plus le choix. Donc une fois que la machine était lancée, il fallait y aller à fond. Et on y allait à fond. Je dis on parce qu'on était plusieurs à l'ouvrir et que c'était une équipe. Mais 27 ans, c'est jeune. Et en fait, ce qui m'a le plus saoulé en fait à cette époque, c'est le client un peu relou, genre... c'est pas mal ici, il est acquis ce bouclard, c'est à moi. Non, mais c'est acquis. Non, non, mais c'est à moi, j'ai 27 ans. En plus, je merci maman, mais je fais souvent un peu plus jeune que mon âge. Donc à 27 ans, je faisais encore plus jeune. Donc les gens ne me croyaient pas. Et ça, c'est le truc vraiment qui m'emmerdait le plus. Parce que tu sais, le mec, il vient, qui commande une bouteille de vin un peu cher. Et tu vois, il me regarde et dit genre, ouais, mais si je lui demande à lui, il saura pas me répondre, tu vois.
Ouais.
Donc, si, je savais lui répondre. Et puis, c'est moi qui l'ai choisi, de toute façon, et c'est moi qui ai fixé le prix.
Oui.
Donc, je sais ce que je vais te vendre. L'idée de Tanat, c'était créer le restaurant dans lequel j'aurais envie d'aller tous les jours. Créer, en fait, l'atmosphère, la cuisine, le pricing et l'ambiance dans laquelle j'avais envie, moi, d'être client, en fait.
Et c'était quoi, alors, justement, les tarifs?
C'était à la carte, hein. Donc, on avait des entrées entre 9 et 12. Des plats entre 18 et 22 et des desserts autour de 9 euros.
Oui, donc quand même assez haut de gamme, quoi. On peut dire bistronomie?
Ouais, on peut dire ça. C'était des assiettes très travaillées, mais dans un décor soigné, mais cool, avec un service pro, mais détendu. Enfin, voilà, tout. Des adjectifs qui s'opposent,
oui.
Mais qui finalement fonctionnent très bien ensemble, quoi.
Comment tu fixes les prix?
Où est-ce qu'on veut se positionner en termes de prix? C'est la base. Et après, il y a le coût des choses. Si on se dit un plat doit être autour de 20 euros, les règles de la restauration de base, c'est tu choisis ton coût matière. Donc ton coût matière, si tu décides qu'il est à 20%, à 25 ou à 30, si je pense à une assiette et que j'ai 4 euros de matière dedans, la règle de base, ça va être de faire ces 4 euros multipliés par 4. La moyenne des ratios en cuisine, c'est 25%.
Donc en gros, quand on mange voilà, une assiette à 20 euros, on considère qu'on a 5 euros d'ingrédients dedans.
4 euros hors taxe, donc ça fait 16, et après tu rajoutes 10%, donc ouais, à peu près 4 euros, ouais, c'est ça. Parce qu'on la vend 20 euros TTC.
Et puis ensuite, il y a le coût humain.
T'as des grands principes de découpage, de restauration, qui sont plus exactement vrais, mais c'est ce qu'on nous apprend. Et quand tu vas demander de l'argent à la région, etc., c'est les grilles qu'ils ont. Restaurant traditionnel, le personnel, c'est 30% du chiffre d'affaires. Le coût matière, c'est 25% du chiffre d'affaires. Les charges fixes, c'est 10%. Le remboursement de crédit, c'est tant. En fait, c'est des choses très normées qui, clairement, varient en fonction de l'endroit où tu te trouves. Parce qu'à Paris, les loyers sont fous, les salaires sont plus élevés. Mais à Nice, par exemple, tu vas vendre un plat le même prix alors que ton loyer est moins cher et que ton personnel te coûte moins.
D'accord.
Donc, c'est pour ça qu'à Paris, il y a moins de place entre les tables et qu'on renouvelle plus souvent les tables et que les restaurants ferment à 22h30 quand, en général, en province, à 21h30, c'est terminé.
Et c'est pour ça qu'en province, les Parisiens râlent en disant « Mais comment ça, le resto arrête à fermer à 21h30 ?» Non, c'est vraiment parce qu'en fait, eux, c'est bon, c'est fini.
Prendre des clients jusqu'à 22h30, ben, ça veut dire que tes cuisiniers, ils peuvent pas partir avant 23h15. Ton service, il peut pas partir avant minuit et demi, 1h du matin. Alors que si tu fermes à 21h30, tu décales tout d'une heure. Et sur une semaine de boulot en restauration, c'est énorme. Ce temps économisé pour ton staff. Et puis pour le patron aussi, qui a certainement... Enfin, je le sais, il a envie de rentrer se coucher aussi.
Il a envie d'aller se coucher. Quand tu avais ce resto, Tanat, donc, qui était avenue Parmentier, extrêmement bien placé dans le 11e, c'est un loyer de combien?
Quand on est arrivé, le loyer, franchement, pas cher, était à 2500 euros. On a acheté les murs après 3 ans d'exploitation. Coup de chance, hein. C'est-à-dire que le propriétaire des murs était en train de divorcer. Il fallait qu'il vende vite. Et quand il nous a dit le prix, on a préempté, en fait, tout simplement. Il avait accepté une offre. Légalement, il nous en a fait part. Et on s'est dit, genre, ah, c'est pas mal, ça. Et donc, on a acheté les murs à ce moment-là. Et après, on avait 4 000 euros de remboursement de crédit.
C'est pas mal, quand même. Faut en faire des couverts pour rembourser 4 000 euros.
Il faut en faire des couverts. Mais idéalement, pareil, encore dans ces petites règles, tu sais, que tu apprends, mais qui te restent un peu ancrées dans la tête, il faut que ton loyer soit payé en 1 ou 2 jours.
Mais tu n'avais pas tant de couverts que ça, c'était pas un immense restaurant.
Alors, c'était pas un immense restaurant, mais on marchait bien. On était complet souvent, on arrivait en moyenne à faire 1,5 service le soir.
Ouais.
Et ça roulait bien. Les 2 premières années, quand on se payait pas, on a gagné beaucoup d'argent. Enfin, on faisait beaucoup de bénéfices, beaucoup. On faisait des bénéfices corrects, quoi. Sur un 700 000 euros de chiffre, on arrivait à sortir entre 50 et 100 en fonction de l'année, quoi, de bénéfices nets.
D'accord.
Donc, c'est pas mal.
Donc, 700 000 euros de chiffre d'affaires par an.
Ouais, en moyenne, ouais, c'est
en
ça.
Moyenne.
Sur les 5 années, je crois que c'était à peu près ça. Ouais. Alors, on avait 30 couverts assis plus 10 au bar. Et la terrasse en été. Et du coup, en moyenne, on faisait 80 couverts par jour. En moyenne globale, midi et soir inclus.
Donc... C'était une affaire qui marchait.
Ouais, c'était une affaire qui marchait. Ouais, c'était top.
Et t'es arrivé à te rémunérer combien?
2500 euros par mois, plus quelques avantages. Genre la voiture était sur la société, par exemple. On prenait les pourboires au début. Et après, quand on avait plus d'employés, on a arrêté de prendre les pourboires. On les a laissés au staff et à la cuisine. Et non, on ne les prenait plus. Mais au début, comme on ne se payait pas, on prenait les pourboires pour vivre.
Vous étiez combien d'associés en tout?
On était 4 associés en tout. On était 2 à travailler dedans et il y en a 2 autres qui ne travaillaient pas dans le restaurant, qui avaient fait un apport financier. L'un de nos associés était avocat, donc par exemple, il s'occupait de gérer un peu tout ce côté paperasse. Puis le dernier, Tom, lui, il n'a jamais travaillé dedans, mais il venait manger. C'était un super RP, il venait tout le temps manger avec plein de monde différent et du beau monde. Et on n'était que 2 à travailler dedans. Les autres ne se rémunéraient pas. Moi, j'étais en salle. Et Ariane aussi était en salle. Moi, à ce moment-là, je ne voulais plus faire de cuisine. Au restaurant, j'étais le gaule volant. Avant l'ouverture, j'ai passé mon diplôme de sommellerie. Un diplôme de sommellerie. J'ai fait de la salle, j'ai fait de la cuisine. Donc, je pouvais être là où on avait besoin de moi. C'est-à-dire qu'au nettoyage des toilettes le matin, comme à la plonge, comme si le chef est malade, prendre son poste. Moi, mon but, c'était d'être partout, quoi. Donc, si la cuisine, tout va bien, je les aide pas. Si la cuisine est dans le rush, je les aide. Tu vois, pendant un service où tu doubles, en fait, là, il faut colmater toutes les brèches, quoi. Parce que la salle est en galère, parce qu'il faut renouveler, il faut faire attendre les clients, les faire venir. En cuisine, il faut accélérer pour que les desserts, les choses sortent plus. Donc moi, pendant une soirée, je pouvais faire 5 postes différents. Et en fait, c'est ça que j'aimais, moi. C'était, un, me sentir utile, me sentir essentiel, parce que c'était une roue, tout comprendre, et puis, en fait, être un facilitateur, quoi. C'est plus simple pour tout le monde, quoi.
En 2015, tu ouvres Tanat, et en 2018, 3 ans après, tu décides d'ouvrir un 2e restaurant.
J'étais parti dans cette idée de créer un empire.
Ah.
Voilà, je voulais avoir plein de restaurants, et comme je disais un peu en préambule, j'avais l'envie de gagner du fric. Et un restaurant, tu peux gagner ta vie, mais tu ne gagnes pas de fric, comme on l'entend.
Tu n'aurais pas pu envisager de te payer plus au bout d'un moment ?
Le problème de se payer plus, c'est que ça coûte cher au resto et que du coup, ça le met en danger. On était obligés d'ouvrir un autre restaurant pour pouvoir bien se rémunérer à deux dirigeants en même temps. Plus le chef qui était là, plus enfin, tout le staff. Quoi. Ça, le staff coûte cher. Et pour que ce soit bien, il faut qu'il y ait du bon staff. Donc
en fait, ce que tu dis, c'est qu'avec un seul restaurant, dans la configuration qu'il y avait à l'époque, c'était très compliqué pour toi de dépasser la rémunération de 2500 euros par mois. Ce qui n'est pas énorme
non,
en
non,
soi.
C'est pas
quand
énorme,
quand tu prends des risques, tu fais des emprunts, tu es chef d'entreprise. J'imagine qu'il y a beaucoup de stress, on en parlera aussi. Donc il y a quand même une petite frustration, j'imagine, de te dire, vu tous les efforts que je mets en place, faudrait que ça rentre un peu plus.
Alors c'est un calcul un peu différent. C'est un plan sur le long terme, en fait. Quand tu arrives dans un restaurant, tu prends un crédit sur 7 ans. Et en fait, tu crées quelque chose, tu achètes un fonds de commerce que tu revends plus tard. Donc, tu sais que pendant cette période, tu ne vas pas super bien gagner ta vie. Mais si tu te débrouilles bien et que tu crées un beau truc et que ton fonds de commerce, tu le développes, à la revente, quand tu n'as plus de crédit, c'est là où tu gagnes des ronds, en fait. Parce que c'est que ton fonds de commerce est pur, quoi. C'est pour toi. C'est le fruit de ton travail, donc ça fait partie de ton salaire.
Tu revends ta marque.
C'est ça. Si tu veux, ou bien il y a des restaurants qui sont là depuis 30 ans parce que ça cartonne et qu'il y a un roulement. Un restaurant, il faut que ce soit grand. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut 30 couverts, c'est très petit. C'est-à-dire que pour bien se payer quand t'es patron dans ton propre restaurant et travailler dans ton propre restaurant, il faut que le restaurant soit beaucoup plus grand, donc beaucoup plus de couverts, donc beaucoup plus de chiffre d'affaires. Et c'est souvent des restaurants qui sont ouverts 7 sur 7, tu vois.
Des brasseries.
Voilà.
Et alors pourquoi tu te dis pas, maintenant qu'on est bien lancé, on va ouvrir un restaurant plus grand ?
C'est pas comme ça que j'ai réfléchi. J'ai réfléchi, on va ouvrir un restaurant à côté, plus petit, facile. Donc la gestion sera simple, parce qu'il y a la proximité, il y a l'expérience du premier, etc. Après, c'était totalement pas ça. Mais l'idée de base était quelque chose de petit et avec du recul, je me dis, on aurait dû viser plus grand. Mais c'est pas ce qu'on s'est dit à l'époque, quoi.
Donc voilà, 3 ans après, 2018, tu ouvres Anna. C'est quoi son positionnement à ce restaurant ?
À la base, c'était vraiment un truc un peu... Ça marchait fort en ce moment. C'était truc assiette à partager, cocktail, etc. Mais en fait, Anna, ça a été compliqué du début à la fin. Parce que on l'a ouvert en 2017, mais en 2018, mais à la base, il devait ouvrir en 2017. On a eu 8 mois de retard dans les travaux. Enfin, ce restaurant, il est un peu. J'ai l'impression qu'il était un peu construit sur un cimetière indien, tu vois. Ça a été, y a rien qui a été facile.
Ouais.
Déjà, quand tu commences avec un retard de travaux de 8 mois, déjà, c'est pas cool.
Ouais.
Parce que ça coûte cher.
Ouais.
Ensuite, on s'est rendu compte que le positionnement était pas. Enfin, n'était pas adapté aux gens qui étaient là.
Du quartier. C'était rue Saint-Maur, c'est ça ?
Ouais. Et donc, on l'a changé au bout d'un an. Et quand on l'a changé, là, tout allait mieux. Mais c'est vrai que le premier concept n'a pas pris. En fait, Anna a repris un peu les prix de Tanat à la base. Et Tanat, on s'est dit, on va augmenter le niveau, on va augmenter un peu le standing et on a augmenté les prix de Tanat. On a fait ça
D'accord.
comme ça. Et là, ça a marché parce qu'en fait, c'est plus ce que voulaient les gens du quartier, quoi. Et là, on a commencé à s'installer dans un truc un peu plus serein et un peu plus... Ça a toujours été dur, hein, mais en fait, on arrivait à remplir le restaurant, tu vois.
À l'époque, t'avais eu beaucoup de presse ?
On a tout eu. C'est tous les gros, Fooding, Figaro, c'est très très bon. J'en oublie plein, Aime le Monde, François Simon qui est venu, enfin, on a eu tous les gros et c'était des bons papiers, c'est important de le préciser.
Oui, oui, oui.
C'était des bons papiers et après 3 ans d'ouverture, on a été dans le top 20, une liste Condé Nast, de top 20 des restaurants parisiens. Et là, ça a été un deuxième souffle, un truc différent, parce que Condé Nast, c'est du coup clientèle étrangère. Alors que dans les 3 premières années, on était un restaurant de quartier, avec des gens du quartier ou des potes, le bouche à oreille, hein, quelques articles locaux. Et Condé Nast nous a fait passer dans une dimension différente parce qu'on avait beaucoup d'étrangers. C'est le service de 19h où tu as des Américains, des Suédois et des Japonais, où les Parisiens disent non, on ne viendra pas à 19h.
Ouais, ouais.
Et c'est bien parce que la presse, pour les restaurants, ça change beaucoup en termes de notoriété, en termes d'affluence. C'est nécessaire, quoi. Moi, j'ai eu ma fille un mois après l'ouverture du restaurant et mon associé Ariane a eu sa deuxième fille un mois après l'ouverture du restaurant.
Waouh!
Et moi, personnellement, c'était hyper dur, quoi. J'ai eu beaucoup de mal, en fait, à aimer ce deuxième restaurant. Parce que, en fait, à ce moment-là, j'avais trop de choses dans la vie, dans la tête, et j'arrivais pas à être à fond dans ce restaurant comme je l'ai été dans Tanat.
Parce que deux restaurants, on peut imaginer aussi que c'est deux fois plus de boulot.
C'est deux fois et demi plus. Parce que chaque restaurant a ses propres problématiques. Quand t'as deux problèmes en même temps, c'est parfois plus long de les régler parce que tu peux pas te concentrer sur un, t'es un peu éparpillé entre les deux. Plus t'as d'employés, plus t'as de problèmes. Enfin voilà, tout est exponentiel. Donc, et en fait, c'est pas impossible. Enfin, ça se fait. Mais c'est juste que moi, en tout cas, j'étais pas dans un état d'esprit qui me permettait d'être performant pour les deux. En fait, je me suis détaché de Tanat un peu pour m'occuper d'Anna. Mais en fait, rapidement, j'avais plus envie d'être Anna. Et c'était dur, quoi. Et j'avais envie d'être un bon époux, un bon papa, un bon associé, un bon patron. C'était impossible. Enfin, moi, j'arrivais pas. C'est pas que c'est impossible. Il y a des gens qui le font très bien, j'en suis sûr. Mais moi, j'y arrivais pas. J'y arrivais plus.
Et c'est quoi ton volume horaire à ce moment-là? C'est quoi une journée type?
Arriver à 9h, rester jusqu'à 15h, s'obliger à prendre une pause, au moins de 2h, faire une sieste, faire quelque chose, revenir faire le service. Et ensuite, j'allais boire des coups. En fait, c'est que je me suis retrouvé dans un engrenage, enfin, c'était où je bossais beaucoup au restaurant. Et quand j'étais à la maison, j'étais jeune papa, donc j'avais pas envie d'être le mec qui arrive, qui met les pieds sous la table, qui dit alors comment ça va la petite, tu t'en es bien occupé, t'as fait quoi aujourd'hui? Non, j'avais envie d'être présent, d'aider. Le biberon de 2h du matin, c'est moi qui le faisais, tu vois, je rentrais du boulot et j'attendais 2h du matin pour donner le biberon pour faire en sorte que Chloé ait des blocs de 6h. Puis quand Maya était plus grande, après, je me suis rendu compte que j'avais plus de temps pour moi. Et donc le seul moment où j'avais du temps pour moi, c'était après le boulot, en sortant aller boire des coups. Donc pour prendre du temps pour moi, j'avais moins de temps de repos. Bon, et en fait, après un an et demi d'Anna, je suis allé voir mes associés en disant en fait, faut que j'arrête parce que j'ai plus envie, quoi.
Ouais.
Je le fais plus bien,
ouais.
J'ai plus envie, donc il faut vendre.
Mais est-ce que ton pari quand même de gagner plus avec ce deuxième restaurant était réussi?
Non, pas du tout. Non, on n'a pas gagné plus, on n'a pas gagné moins. Et en fait, ça a été plus de stress, plus de problèmes, plus dur, quoi.
Plus dur.
Ouais.
Donc là, tu te désengages de Anna, tu dis je m'en vais. Comment est-ce que c'est reçu?
J'ai dit j'en ai marre, moi j'ai envie de vendre. Qu'est-ce qu'on fait? Donc chacun a pris le temps de la réflexion et puis finalement on s'est dit... Tous, on s'est dit, ok, on vend et on arrête. Ils n'auraient pas continué si je m'étais juste retiré du projet et que je les laissais continuer. L'idée, c'était, on arrête tous ensemble, on ferme les restos, on vend et on passe à autre chose. En fait, on a décidé de vendre Tanat en juillet 2019. L'idée, c'était, on vend Tanat et on vend Anna dans la foulée. On a décidé de les vendre un par un. Et en fait, à ce moment-là, au mois de juillet, on met le restaurant à vendre à 1,2 million. On a baissé le prix que de 100 000 euros, ce qui est finalement pas mal dans un truc, dans la période en fait. Parce que à partir de là, à partir de septembre, je crois, il y a eu les Gilets jaunes.
Oui.
Et nous, on était en plein dedans, tu vois.
C'est-à-dire
que ça nous a flingué plein de samedis soirs. Et après, il y a eu les grèves.
Oui.
Où ça nous a flingué l'entièreté du mois de décembre et la moitié du mois de janvier. Mais quand je te dis flingué, c'était 57% de chiffre d'affaires en moins sur les deux restaurants cumulés pendant un mois et demi.
Oui, et puis en plus, c'est à côté de République.
On était en plein dedans. Donc en fait, quand le Covid arrive, on vient de signer Tanat. Et en fait, Anna, on se retrouve dans une situation où ça nous coûte de la thune. on n'a plus de trésor parce que les mois qui viennent de s'écouler là nous ont bouffé toute la trésor. Et il y a 8 confinements qui s'arrivent après, donc en fait, impossible à vendre. Donc on l'a liquidé, en fait, on s'est dit juste, en fait, on s'en va, quoi, on arrête. Parce que mentalement, ça prend beaucoup d'énergie, ça coûtait quand même de l'argent, le loyer, faut que tu le payes, les charges patronales, tu payes pas les salariés, mais tu payes les charges patronales. Donc chaque mois, ça te coûte de la thune, et l'idée, c'était juste d'arrêter le plus vite possible et passer à autre chose, quoi.
Tu l'as vendu combien ?
On l'a vendu 1 100 000.
Et donc ça, c'est réparti entre chacun des associés ?
La banque prend ce que tu lui dois encore. Le crédit d'achat du fonds de commerce et des travaux de base, qui avait 5 ans, donc il nous restait 2 ans encore à rembourser. Il y avait le crédit d'achat des murs, où on avait acheté les murs 550, 550 000 balles, je crois. Et on n'avait remboursé que 2 ans. Donc, il restait encore une rondelette somme, tu vois, à rembourser. Après, il restait un petit crédit travaux, des trucs comme ça. Donc, en fait, de toute façon, quand tu vends, toi, tu te payes en dernier.
Quand on est 4 à prendre des grandes décisions comme ça, notamment financières, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y en a qui sont plus au courant, plus intéressés par ce sujet ? Les rapports aussi à l'argent sont différents, j'imagine que les gens n'ont pas non plus le même besoin. Hein. Des investisseurs, on peut imaginer qu'ils ont un petit matelas plus confortable que des entrepreneurs qui vont mouiller leur chemise pour se lancer. Donc, ça circule facilement. 4, c'est beaucoup de personnes quand même.
En fait, sur les 4, on n'était que 2 opérationnels, donc 2 à prendre les décisions. Après, quand sur des décisions d'achat, de crédit, de choses comme ça, les 4 étaient consultés, mais sur des décisions du quotidien, c'était Ariane et moi uniquement. Et moi, j'avais un profil beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus terrain, et Ariane avait un profil un peu plus, justement, un peu plus compta, même si tout le monde faisait tout, mais Ariane s'occupait de la compta à proprement parler, et moi, je m'occupais beaucoup plus du terrain au jour le jour. Dans l'idée, c'était, on fait de l'apport en industrie, parce qu'on travaille dedans, et vous faites de l'apport en numéraire, parce que vous ne travaillez pas dedans, mais ça nous bénéficiera tous les 4 au moment de la vente. Mais Romain avait investi plus de cash, lui. Donc du coup, la question, au moment de la vente, c'était un peu plus compliqué. Pour être honnête, je ne parle plus à la moitié de mes associés.
Oui.
Enfin, voilà, il y en a 2 avec qui je suis brouillé, et 1 avec qui je suis toujours ami. Mais c'est la vie, hein. C'est-à-dire que ça arrive souvent, et finalement, c'est pas si grave, ça fait partie du chemin.
Mais est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui auraient pu éviter cette brouille ? Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu referais différemment ? Peut-être dans la façon de communiquer sur...
C'est que de la com, que de la ouais. Communication. Quand tu finis quelque chose et qu'il y a un split, c'est comme un héritage, en fait. Hein. Même si tu t'en parles pas, s'il y a des non-dits, c'est compliqué parce que quand tu vas reprocher le truc 1 an après, ça vaut plus rien. En fait, tu peux pas me reprocher un truc si tu me l'as pas dit, si je m'en suis pas rendu compte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et donc, ouais, il y a plein de choses qu'on aurait pu éviter en parlant plus franchement. Être associé avec des amis, c'est ça aussi qui est compliqué parce que c'est souvent dur de dire genre, bon, là, je parle à mon associé ou je parle à mon ami ? Parce que à mon ami, j'ai envie de faire en sorte qu'il soit bien, même si je dois être honnête avec lui. J'ai pas envie d'être trop dur. Mon associé, par contre, on parle de business, donc il faut être juste et parfois dur pour que ça aille dans le bon sens. Mais moi, par exemple, je sais que c'est quelque chose que j'ai pas su faire. Il y a des choses que j'aurais pu faire mieux. Ce que moi, je leur reproche, je leur ai pas assez dit au moment où je l'ai pas dit des bonnes façons. Donc en fait, au moment du split, et puis des comptes, en fait, ben, c'est là où il y a les trucs qui ressortent et des deux côtés. Et en fait, tout le monde a raison, mais tout le monde a tort en même temps. Et donc, c'est impossible de... C'est dur, hein. Et c'est souvent des histoires de thunes, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, c'était des histoires de thunes. Et ensuite, on se sépare. Ensuite, on rembourse. C'est pas qu'on rembourse, c'est qu'on paye pour Anna le temps que ce soit terminé. Si tu veux, l'enchaînement gilet jaune, grève, Covid, il nous a coûté un paquet de fric. Je pense honnêtement qu'on a perdu dans les 150 000 balles en un an.
Ah ouais, quand même.
Dû à ça. 150 000 balles sur la vente.
Mmh.
Donc ouais, c'est beaucoup d'argent. Moi, j'avais 30%. Donc si tu veux, ça fait, on va dire, après les impôts, ça fait 20-25 000 euros net dans ma poche.
Mmh.
Et pour, uniquement pour des éléments qui sont indépendamment de... C'est de la conjoncture, quoi. Mmh. Moi, j'y suis pour rien. Ça n'a pas de rapport avec mon travail, ça n'a pas de rapport avec, avec tout ce qu'on a fait. C'est juste qu'on est dans une mauvaise période et que tu n'as pas le choix. Tu subis, mais subir, ça coûte cher, quoi. C'est, voilà, ça coûte cher. Et ouais, c'est beaucoup d'argent parce qu'en en fait, en toute honnêteté, Tanat, j'en suis sorti à la fin avec quelques milliers d'euros. Alors qu'au moment où on vendait, je pensais que j'allais partir avec un 70-80 net dans la poche. Après la vente. Donc les trois mois pendant lesquels on n'a pas bossé, les restaurants fermés, c'est trois mois où tu rembourses pas de crédit, trois mois où tu fais pas de bénéfices, trois mois. Donc c'est trois mois où en fait chaque mois, sans te rendre compte, c'est 10 000 euros que t'as pas au moment de la vente.
C'est quand même assez édifiant ce que tu me racontes. C'est-à-dire que on est dans la super belle story de l'entrepreneur qui a du savoir-faire, qui a des potes avec qui il s'associe, qui monte un premier resto, le resto marche très bien. Enfin, tu prends des risques, tu montes un deuxième resto, tout ça marche. Entre-temps, tu te rémunères, bon, 2005 plus moins par mois, c'est pas la folie. Et quand tu vends, tu as quelques milliers d'euros. C'est quoi quelques milliers d'ailleurs?
7 000 euros. Ouais.
Pour 5 ans de travail acharné.
Ça fait 1300 par an. Ouais.
Ah, c'est raide.
De bonus.
C'est dur.
Ouais, c'est dur. En fait, quand ça s'est terminé, j'étais hyper amer.
Ouais.
J'étais dégoûté.
Ouais.
Je me suis dit tout ça pour ça.
Ouais.
C'est nul. Et puis, je me suis rendu compte après, si je bosse aujourd'hui comme ça en indépendant, en fait, c'est grâce à tout ce que j'ai fait avant.
Donc, tu vends, le confinement se termine, tu pars avec tes 7 000 euros et tes 0 euros de chômage par mois. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? C'est un petit peu flippant, non?
C'est un peu flippant, mais je relance une boîte parce que je me vois pas travailler pour quelqu'un. Et j'avais ce projet en tête de cantine d'entreprise qu'on avait à moitié lancé avec les restaurants parce qu'on faisait la cantine de Radio Nova. Et donc je reprends tout ça et on monte une boîte avec des potes qui s'appelle 11h59 où on a l'envie de faire une cantine d'entreprise bonne. C'est-à-dire qu'avec les mêmes prix que Sodexo et Elior, mais avec une autre qualité dans l'assiette. D'autres produits, une autre qualité, une autre maîtrise dans l'assiette. Moi, je gère la cuisine, je crée les recettes, je gère l'organisation de la cuisine, la production et tout ça. J'ai lancé cette boîte pendant la fermeture des restos, enfin la fermeture administrative, tu vois, des restos, et pendant le moment où ça se passe vraiment pas bien avec mes anciens associés, etc. Et donc, au bout de quelques mois avec 11h59, je me pose et je me dis, en fait, est-ce que je serais pas en train de refaire la même connerie? M'associer avec des potes, pour l'instant, avec qui tout se passe bien, mais du coup, comme c'est dur, je vois comment ça se passe avec les anciens associés qui étaient des amis aussi, ça se passe mal. Même schéma. Et en fait, est-ce que j'ai envie d'avoir un gros truc, enfin d'avoir des employés, d'avoir tout ça? Et je me pose et je me dis, non, en fait, j'ai plus envie de tout ça. Et je l'ai réalisé au bon moment. Et donc, j'ai vu mes associés, je leur ai annoncé qu'en fait, j'avais déjà fait du bon boulot, j'avais créé 250 recettes, on avait mis des trucs en place en cuisine. Et donc, mes associés ont très bien pris mon idée de départ. La boîte existe encore, hein, d'ailleurs, elle continue sans moi. Et donc, ça s'est bien passé, je suis parti au bon moment.
Mais là, t'as réussi à te rémunérer là-dessus?
J'avais un petit salaire de... Je me sortais 1008. Après, j'ai la chance, Chloé gagnait bien sa vie. Donc, en fait, il y a eu cette discussion. Hein. C'est-à-dire que c'est pas moi, un cavalier solitaire, dit « Bon, Chloé, cette semaine, je vais faire ça. Ça va rien me rapporter, mais non, on en parlait. » On en parlait et on savait qu'elle, grâce à son salaire, même si moi, je me retrouvais avec zéro... Elle pouvait assurer, pas ad vitam aeternam, mais c'est-à-dire que les moments de creux pouvaient faire qu'on n'aurait pas beaucoup d'argent.
Elle gagnait combien, ta femme, à ce moment-là?
Elle gagnait autour de 4 000 euros par mois.
Ouais. Ouais.
Et donc, elle a été solidaire, ouais, elle m'a permis. C'est-à-dire que 11h59, c'était un truc, mais une fois que j'ai quitté 11h59 et que je me suis mis à mon compte, toujours sans chômage, en fait, si je travaillais pas, je gagnais pas d'argent. Au début, je ne voyais pas à un mois et demi, tu vois. Même pas, parfois, je ne voyais pas à deux semaines comment j'allais gagner de l'argent. Ça, c'était un peu flippant.
C'est quoi se mettre à son compte quand on est cuisinier? Parce que là, tu es re-cuisinier, ouais. En fait. Hein. Tu n'es plus restaurateur, tu es de nouveau cuisinier. Ce qui, en plus, te plaisait plus tant que ça quand tu étais restaurateur.
Et donc, en fait, après tout ça, je me suis juste dit, je me suis fait mon propre bilan de compétences.
Ouais.
En me disant, bah, en fait, moi, ce que j'aime, c'est cuisiner. Ce que j'aime plus, c'est être tous les jours au même endroit, avec les mêmes gens et faire la même chose.
Ouais.
J'ai pas envie d'avoir quelque chose de régulier, j'ai envie qu'il y ait des pauses, des arrêts. Parfois, il y a des moments durs où t'as un truc, ça dure 5 jours, tu dors 4 heures par nuit, mais tu le fais, après c'est fini. Mais, et donc, je me suis dit, bah, le seul moyen de le faire, c'est d'être indépendant, c'est-à-dire que je suis cuisinier sans restaurant et sans travail fixe. Au début, je faisais beaucoup de dîners privés.
Oui.
Aujourd'hui, je me dis, mais c'est complètement dingue, mais j'acceptais de faire des dîners chez des gens pour 300 balles, tu sais, qui me rapportaient, genre, à la fin, une fois que tu as déduit le transport, les courses, les trucs, tu gagnes 80 euros, tu vois. En fait, j'avais peur de ne pas avoir un truc le lendemain.
Oui.
Donc, t'acceptes des trucs.
Tu dis oui à tout.
Tu dis oui à tout, tu le prices hyper mal. En fait, t'as tellement peur de pas avoir d'argent que quand t'as un truc qui arrive, tu fais tout ce qu'il faut pour le valider et l'avoir. Donc en fait, tu te brades. Une fois que j'ai passé ce stade, c'est les 3 premiers mois, vraiment de septembre à novembre, où tout est nouveau, tout est stressant. Et je suis pas un gros stressé dans la vie en général, tu vois. Je prends des risques, je fais des choses, mais là vraiment, c'était angoissant, tu vois. Ça, j'avais des angoisses où il y a des soirs où je me couchais et je me disais. Bon, bah cette semaine, j'ai rien. Voilà, et à côté, j'avais Instagram qui ne me rapportait pas une thune, mais j'avais une petite vision, donc ça me donnait genre, ok, je continue à faire ça parce que ça finira par payer.
Ton
tu
petit
vois.
Projet perso, tu postes des recettes et des photos de plats qui sont absolument sublimes.
Merci.
Ah ouais, c'est très très beau. Il était déjà gros ton Instagram à ce moment-là?
À ce moment-là, je devais avoir 8-10 000 abonnés.
Ouais.
Après, c'est pas gros, mais c'est déjà quelque chose.
Ouais.
Tu vois, c'est-à-dire que déjà, ça peut se monétiser. Déjà, en tant que carte de visite, c'est bête, hein, mais t'as un petit truc de sérieux en disant « Est-ce que vous avez une carte ?» Non, non, d'ailleurs, j'en ai pas.
Ouais.
Je dis j'utilise Instagram. Instagram, c'est ma carte de visite. C'est,
ouais, très bien.
C'est la phrase que, d'ailleurs, je réponds toujours quand on me demande une carte aujourd'hui. Et je me suis assez rapidement rendu compte que, dans le regard des gens, si t'as beaucoup d'abonnés, c'est en fait genre c'est genre une sorte de label de qualité. Je l'ai compris assez vite et donc j'ai continué à le développer beaucoup parce que j'ai mis quand même pas mal d'intensité, pas mal de trucs. Après tout ce que je cuisine, toutes les recettes que j'ai montrées, c'était mes repas en fait. Si tu veux, j'avais le temps parce que j'avais un truc par-ci, un truc par-là, donc j'avais le temps de cuisiner quoi. Donc je l'ai fait à fond et j'ai fait plein de recettes. Ce que j'ai bien fait de faire parce que...
Ton compte a grossi.
Parce que le compte a grossi, quoi. C'est-à-dire que j'ai bossé, en fait.
Tu continues à travailler comme ça en freelance à Paris. J'imagine que ça se développe un peu. Enfin, tu vas nous le dire. Mais à quel moment tu décides d'aller à Nice et pourquoi?
Alors, Nice, c'était un projet depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, on en parlait avec Chloé, mon épouse, depuis 5 ans. On disait, en fait, un jour, on va se tirer de Paris, on va partir vivre dans le sud. Mais tu sais, moi, avec les restaurants, c'était pas possible. Chloé, elle était en CDI. Et puis, d'ailleurs, elle a toujours... Enfin, c'est pas qu'elle a pas de travail, c'est qu'elle a monté sa boîte maintenant dans le sud. C'est-à-dire qu'elle a regardé un peu, elle n'aurait pas trouvé de travail. Dans ce qu'elle voulait, aux conditions qu'elle voulait. Donc, c'était ce côté un peu genre, ouais, en fait, si on part, il faut partir, mais il faut réfléchir un peu le truc. Et il s'est trouvé juste qu'à un moment, moi, ça marchait assez pour pouvoir prendre le risque de partir, de vivre à Nice en travaillant à Paris, payer les allers-retours et puis ne plus être là physiquement. Parce que quand les gens savent que tu n'es plus là, ils se disent « Ah ouais, mais non, Simon, ça aurait été bien, mais il n'est plus là. » Tu sais, ce truc au début, et j'ai travaillé pour faire en sorte... Non, je suis toujours là.
C'est de la communication.
Voilà. Je vis à Nice, mais je suis toujours là, en fait. Et du coup, je travaille à Paris, à Marseille, à Lille, en Normandie, partout. Je vais à Genève, je suis même à New York. C'est-à-dire que maintenant, j'ai fait comprendre que j'étais basé à Nice, mais que je suis disponible n'importe où dans
d'accord,
le monde.
D'accord, voilà.
Ok. Ce qui est génial d'ailleurs, parce ouais. que moi, c'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que toutes les cuisines dans lesquelles je travaille sont différentes, et ça, c'est cool. Mais l'idée, c'était ça, et on s'est dit, on le fait parce qu'on peut le faire maintenant. C'est la première fois en 5 ans que toutes les conditions sont réunies. Chloé avait envie de quitter son travail parce qu'elle avait envie de changer. Et moi, j'étais indépendant, donc je pouvais bosser n'importe où.
Aujourd'hui, donc ton foyer est composé de ta femme, ta fille. Vous habitez dans un appartement que vous avez acheté.
On a acheté, ouais, ouais. Ça faisait longtemps qu'on avait envie d'acheter, mais on a vécu à Montreuil les 2 dernières années. Mais en fait, tout était très cher et on n'y arrivait pas. Et puis moi, j'ai chef d'entreprise qui se paye mal. C'est dur, et puis qui se paye mal et qui est souvent à découvert, on va pas se mentir. Hein. C'est-à-dire que j'avais pas le dossier rêvé. Mais il se trouve que j'ai... C'est un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'au moment où on décide de partir à Nice, je dis à Chloé, on regarde à l'achat. Parce que, en fait, c'est trop con. Enfin, vu le prix de l'immobilier là-bas et le prix des loyers, enfin, c'est...
Mais c'est cher, Nice. C'est une ville chère.
Non, mais c'est cher. Les loyers sont les mêmes qu'à Montreuil.
D'accord.
Par contre, à l'achat, c'est entre 3 et 5 000 du mètre, quand à Montreuil, t'es entre 6 et 8.
Ah bon ?
Ouais.
C'est pas plus ? Je
non,
croyais que c'était une des villes les plus chères de la Côte d'Azur.
Ah non, 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 t'as des villes qui sont beaucoup plus chères. Après, t'as des coins à 10-12, hein.
Ouais.
Mais j'y vis pas.
D'accord.
On s'est dit, genre, ok, on regarde. Au moment où on se dit on regarde, par un plan de la cousine d'une copine de la sœur de Chloé, un appart qui se libère, qu'on est les seuls à voir, à visiter, pile poil dans nos tarifs.
C'était quoi ?
C'était c'est un appart de 70 mètres carrés au Montboron qui était en vente à 260 000.
D'accord.
Et en fait, on s'est dit, en fait, on peut le faire. Donc Chloé, comme elle était encore en poste, on dépose un dossier à la banque. Il se trouve que par hasard, le banquier qui lui répond, c'est un ami d'enfance. Et en fait, du coup, on fait la connexion. Donc, il nous a... On a eu notre crédit parce que le dossier était validé, mais en fait, il nous a vachement bien drivé. Et c'était juste avant la hausse des prix. Tu vois, on a encore eu un taux à 1,40. Aujourd'hui, ils sont à 3,50. C'est-à-dire ouais. qu'on est passé avant tous les trucs parce qu'il nous disait, je vous envoie un mail, vous me répondez avant midi, que je puisse le faire valider maintenant parce que demain, le taux, la régulation change.
Ouais.
Tout s'est passé comme ça. Et moi, à ce moment-là, j'étais indépendant, donc pas de capacité d'endettement, vu que je suis indépendant depuis 1 an. Donc, tout passe sur le salaire de Chloé, mais je peux rembourser. Et il se trouve à ce moment-là que je suis, pendant 6 mois, je suis chef privé pour Demi Moore.
Pour Demi Moore.
Ouais, pour Demi Moore et Margaret Qualley qui
alors,
sont là.
On va en parler de ça. Donc, t'es chef privé pour Demi Moore. Donc, je finis ta phrase, je me permets. Donc, ça veut dire que t'es plus crédible. Ça veut dire quoi ?
Ben, ça veut dire que dans le dossier, c'est cool, quoi.
Ouais.
Non, et puis, j'étais très bien payé à ce moment-là.
Ok, alors. Ouais. Donc, tu as été successivement chef privé pour Margaret Qualley, qui a joué dans... Comment s'appelle cette série
Ah, c'est Made, sur Netflix.
Made, ouais,
ouais. Ouais, c'est ça.
Comment est-ce qu'on chope des plans comme ça ? Comment est-ce qu'on est rémunéré ? Quelles sont les conditions
Alors, comment on chope un plan comme ça ? C'est parce que, en fait, son assistante en France... Pendant cette période du film, je la connais. Et en fait, elle est arrivée un soir, elle m'envoie un message en me disant « Oui, bonjour Simon, je vais être pendant quelques mois l'assistante de quelqu'un de connu qui aurait besoin d'un chef privé. » Et donc, je dis « 6 mois, c'est trop long pour moi. » Elle me dit « D'accord, ok, parce que c'est pour Demi Moore. » Là, je fais genre « C'est long, mais c'est long. » Et en fait, j'en parle avec Chloé. Et Chloé me dit « Tu sais qu'on est en train d'acheter un appartement, Simon ?» Et je dis « Oui, c'est vrai. » Et donc, comment ça s'est passé le brief était très compliqué. C'était vegan, avec beaucoup de si, pas de si, pas de ça, pas beaucoup de pas beaucoup.
Oui.
Voilà. Et donc, c'était pas quelque chose qui me faisait vibrer vraiment de le faire, mais je savais que... Bah, sur le CV, c'est voilà.
Ça claque.
Ça mais... claque, quoi.
Attends, ouais.
Du coup, j'ai donné mes conditions.
Ouais.
Elle avait un appart dans une résidence de luxe dans le 8e. Elle vivait sur Paris pendant le tournage, quoi. Ça
a
duré
6 mois.
Mais ouais. Du coup, elle avait cet appart dans sa résidence. C'était un un bel appart. Ouais. C'était sympa. Ouais. Mais je cuisinais pas chez elle. Je cuisinais dans un labo que je louais chez des copains. Et en fait, comme c'était long, j'avais pas envie de tous les jours me taper le truc. Donc j'ai dit, ok, je viens 3 fois par semaine. Je prépare plein de choses. Je remplis les frigos avec toutes ces choses. Et puis, je vous donne les menus comme ça. Quand elle rentre chez elle, elle ouvre, elle mange un truc, elle pioche. Ouais. Elle a toujours à manger. C'est toujours bon, c'est toujours frais. Je venais lundi, mercredi et vendredi.
Oui.
Avec toujours des nouveautés, du frais, voilà, des fruits. Je faisais en sorte que tout soit nickel. Et en fait, pour demi, donc pour 3 jours de travail par semaine, j'ai touché 4000 euros par mois. Mais j'ai fait la même chose pour Margaret en même temps.
En même temps ?
Ouais.
Elle était sur le même film ?
Elles étaient sur le même film et dans le même immeuble. Et donc, du coup, ça faisait 8000. Enfin, c'était 8000 pour 3 jours de travail par semaine.
D'accord. Mais elle mangeait pas la même chose.
Il y avait une base commune, mais c'était pas la même chose, ouais.
D'accord.
Donc, moi, ça me faisait des journées. Ça me faisait 3 fois 6 heures par semaine de boulot.
Ouais.
Donc,
ça va.
Donc, c'est pas mal. En fait, ça m'a permis pendant 6 mois de faire ça et de faire tout ce que je voulais à côté. J'ai pu continuer à faire de l'événementiel. J'avais toujours le temps de m'occuper de mon Instagram. Enfin, j'avais le temps de faire des choses à côté. Donc, en fait, si tu veux, c'était 8000, c'était une rente. C'est-à-dire que si tu veux, tout cet argent, je ne l'ai plus aujourd'hui. Tout est passé dans l'appart. Mmh. Et l'idée, c'était ça. Ça, c'est pour l'appart. Et en fait, moi, je vivais avec les autres trucs que je faisais à côté.
D'accord,
quoi.
Ok. Ouais. Bon, bah, sympa. Et puis, c'est vrai que petite notoriété...
C'est Demi Moore, quoi.
C'est Demi Moore. Tu l'as rencontré ?
Ah, mais je la voyais tous les jours.
Ouais.
Enfin, quand je la voyais tous les jours, quand j'allais chez elle, on n'est pas potes, mais on discutait. Et puis surtout, elle est très sympa et très, très honnête. Genre, elle dit, ça, c'est mortel. Ça, j'aime pas.
Ouais.
Et c'était cool parce que c'était fluide. C'est-à-dire que ça, je veux plus que tu m'en refasses. Par contre, ça, j'ai adoré, j'en veux toutes les semaines. Et en fait, moi, si tu veux, j'étais là juste pour lui faciliter son travail. Mmh. Elle voulait pas se prendre la tête avec la bouffe. Donc, elle s'entourait de personnes qui faisaient ci, ça pour elle. Pour elle, elle puisse se concentrer sur son film et faire la meilleure performance possible. Et ouais, donc si le film réussit, j'en aurais fait partie un peu, quoi.
C'est en partie grâce à toi. Et alors, aujourd'hui, c'est quoi ta vie aujourd'hui ?
Je travaille 3 fois moins qu'à l'époque où j'étais restaurateur.
Ouais.
Et je gagne 3 fois plus.
Ah.
Si c'est possible, c'est parce que je suis passé par tout ça avant, en fait.
Mmh.
Comment ? C'est que l'événementiel, c'est ma première source de revenus. Donc, j'organise des événements. Donc, ça peut être un dîner pour une marque, un dîner ou un déjeuner pour une marque, pour un lancement de produit pendant la Fashion Week, pour un vernissage. C'est du traiteur. Ça, c'est ma première source de revenus. Moi, j'ai pas de grille de tarifs de base. Je prends le brief et après, je construis une proposition adaptée en y mettant un prix. Après, il y a des minimums. Aujourd'hui, je ne me déplace pas si je sais que pour un événement, je vais pas gagner net dans ma poche 1500 euros.
D'accord.
C'est-à-dire que je ne me déplace pas parce que, premièrement, je vis à Nice.
Mmh.
Et que se déplacer, c'est compliqué. Le train, c'est-à-dire que j'essaie de moins prendre l'avion, mais le train, c'est 6 heures. Donc, je ne vais pas venir pour gagner 300 euros, me taper 12 heures de train. Tu vois, je préfère rester chez moi et jouer avec ma fille. Après, j'ai tout mon contenu éditorial. Il y a Instagram, il y a ma newsletter, qui est une newsletter qui est payante. Je l'ai commencé il y a 2 mois. Et pour l'instant, ça m'a rapporté 4000 euros. C'est 40 euros par an.
D'accord.
Ou bien 5 euros par mois.
Et c'est quoi le bénéfice de te suivre en newsletter par rapport à te suivre sur Instagram ?
Si tu veux, je me dis, sur Instagram, je donne une recette. Sur la newsletter, je l'explique.
Ouais.
En gros, je dis, il faut faire ça comme ça, parce que... Et je le fais un peu en roman photo, j'adore dire ça, parce que j'aime bien écrire. C'est aussi un peu ma patte, un peu mon style de faire des tests. Tu vois, parfois, je divague, je digresse un peu, mais c'est marrant. Et ce qui est en plus, c'est que je fais des cours de cuisine en ligne pour mes abonnés. Donc, une fois par mois, je fais des sessions où j'ai 3 sessions avec 5 personnes. Et on choisit le thème. D'ailleurs, j'ai là choisir le thème. Je l'ai fait voter en disant, c'est quoi le prochain thème ? Hop, le prochain sera des gnocchis maison. Voilà. Je vais faire des gnocchis maison et je vais faire un cours de cuisine qui du coup est gratuit pour mes abonnés.
Donc 4000 euros quand même en monétisation de contenu, c'est pas mal. Hein
ouais, en 2 mois, sachant que l'idée c'est de le développer. Quoi. Ouais. Je suis au début et Et en fait, ces 4000 euros, ils vont me servir à financer un autre projet plus vidéo, mais du coup, qui demande de la prod. Donc, ça coûte un peu d'argent. Et grâce à la newsletter, j'ai financé ce projet pour pouvoir le diffuser. Voilà, c'est comme ça, petit à petit, je me sers de levier comme ça, pour, enfin, comme tout le monde, quoi. D'ailleurs, c'est pas, j'ai rien inventé, mais je me sers de levier pour développer mon projet éditorial.
Tu me parlais d'une troisième source de revenus ?
Je m'excuse auprès, tout de suite auprès de mon agent, parce que du coup, je donne beaucoup de prix et ça va pas lui plaire.
Ouais.
Mais je peux faire un devis à 12 000 euros pour créer un contenu. Je vends pas juste une photo. Comme pour les dîners, j'aime pas arriver en disant ben mes prix, c'est ça. J'arrive en disant vous avez besoin de quoi ? Et moi, je vous dis ce que je peux faire. Et une fois que je sais ce que je peux faire, ce que j'ai envie de faire pour vous, je vous dis combien ça coûte.
Et c'est ton agent là qui intervient ?
C'est mon agent ou c'est moi en fonction d'eux. C'est mon agent, je ne l'ai pas depuis longtemps.
Ouais.
Mais,
il prend combien ton agent ?
20% de commission.
D'accord.
Mais 20% de commission sur des plans qu'elle négocie beaucoup mieux que moi.
Ouais.
et puis qu'elle m'apporte aussi. Donc c'est pratique. Et c'est bien en fait, le fait de ne pas être à Paris, mais d'avoir un agent, ça me rassure genre énormément.
Alors, parce que je pensais pas du tout que cette interview allait se transformer en interview d'influenceur, en fait. Pour moi, j'ai interviewé un restaurateur.
J'ai refusé 12 000 euros pour travailler pour seloger.com. Et si je l'ai pas fait, c'est parce que je me reconnaissais pas dans le contenu qu'elle allait être produit, quoi, tout simplement. Ça veut pas dire que j'en ai pas besoin de ces 12 000 euros. Mais ça veut dire que j'ai des convictions et puis surtout j'ai des envies. Et on revient sur mes valeurs, c'est que j'ai pas envie de faire des trucs qui me plaisent pas, si je suis pas obligé de le faire.
Surtout aujourd'hui, t'as le luxe de dire non, ce qui n'était pas le cas au moment où t'étais obligé de dire
ça.
Oui.
Et je suis fier, parce que ça allait vite. En un an et demi, j'ai dû apprendre à dire non. Parce qu'au début, c'est dur de dire non. Mais parfois, c'est souvent même nécessaire. Là, par exemple, c'est un autre truc d'influence, mais je ne suis pas payé pour. Mais après-demain, je pars à Madrid 2 jours parce que je suis invité par Lacoste, parce que je joue au tennis et que j'en parle beaucoup, pour le Master 1000 de Madrid. Ça, c'est pas payé, mais c'est fantastique, quoi.
Et tu vas cuisiner ?
Non, je joue au tennis.
Mais non.
Si.
D'accord.
Voilà.
Mais tu vas le relayer sur ton compte.
Et je ne suis pas obligé.
D'accord.
Je suis pas obligé de le faire, mais je le ferai avec plaisir parce que je serai content d'être là. En fait, quand t'es obligé, c'est du taf.
Ouais.
Si t'es pas obligé, tu le fais avec plaisir. Et, et je pense que même c'est presque plus malin, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que quand c'est du taf, le contenu est différent.
Ouais.
Que quand. Parce que peut-être que le ton va être un peu plus pro. Je sais, bêtement, mais si. Et en fait, d'ailleurs, ce que je dis là, ça va pas du tout dans le sens de mes futurs clients. C'est genre, ah bon, quand t'es payé, tu travailles moins bien. Non, c'est même pas ça, mais c'est que ouais, c'est pas pareil entre quand tu fais un truc pour le plaisir et que t'es payé pour le faire, t'as pas la même approche, tout simplement.
Ouais.
Quoi.
Aujourd'hui, tu gagnes combien par mois ?
Alors, c'est variable. Ça peut être 2000 euros sur un mois parce que j'ai rien fait, mais je peux avoir gagné 10 000 le mois d'avant. J'ai une moyenne honnête entre 4 et 5 par mois.
Donc, mieux que quand tu avais un restaurant.
Dans l'idée, en fait, je gagne 4-5 000 euros par mois pour vivre, pour faire mes trucs. Et si j'ai besoin de plus, je sais comment aller chercher de l'argent, ou je sais qu'il y a des mois où, tu vois, le mois de juin, par exemple, je sais que je vais mourir. Je vais beaucoup trop travailler. Mais je choisis et je sais que je vais gagner énormément d'argent au mois de juin. Mais je sais qu'à partir du 15 juillet jusqu'au 31 août, si j'ai pas envie de travailler, je travaille pas.
Ouais.
Je préfère faire comme ça. Et après, je sais qu'il y a toujours des trucs où, tu vois, la newsletter, c'est du travail. Mais je le fais de chez moi, dans ma cuisine, en caleçon, en buvant un café, quoi. Pas toujours en caleçon, parce que quand je prends des photos et que je cuisine et que je suis dessus, je m'habille. Mais tu vois l'idée un peu.
Bien sûr.
Je peux choisir mon rythme. Et quand je dis que pendant un mois et demi, je n'ai pas travaillé, bah si, je vais quand même faire de l'Instagram, je vais quand même écrire pour ma newsletter. Mais je n'ai pas besoin d'être chez moi, c'est-à-dire que je peux le faire en vacances aussi.
Donc aujourd'hui, vous vivez bien, mieux qu'avant.
Oui, mais en fait, aujourd'hui, on vit beaucoup mieux et on a beaucoup plus de temps. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le temps libre que j'ai. parce que j'en ai beaucoup. Parce que si là je suis venu ce week-end, tu vois, j'ai bossé hier soir, j'ai eu 48 heures. En 48 heures, là, j'ai bossé 20-25 heures d'un coup en un week-end. Donc c'est énorme, mais je le fais une fois, c'est ce qui me permet le reste du temps d'être tranquille, quoi. Tu vois, je te le dis, j'aime jouer au tennis. Donc à Nice, j'ai le temps de jouer au tennis. Et ça, c'est un. Et pour moi, c'est un vrai luxe. C'est-à-dire que je pourrais me dire, je vais gagner 10-15 par mois parce que j'ai envie d'avoir du fric. Mais en fait, j'aurais plus le temps de kiffer.
C'était un épisode de Thunes, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli et monté par Bastien Bironneau. Si vous aimez Thunes, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Déjà, ça nous fait plaisir et en plus, ça booste l'algorithme. Pour nous contacter, vous pouvez passer par notre compte Instagram ou bien nous envoyer un mail à thunespodcast@gmail.com. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thunes à Thunes, ça fait sens et que ça nous aide à continuer. Elle se trouve dans la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.